France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Si je vous dis Charles-Marie Vidor, Aaron Copland, Robert Casadesus, Nadia Boulanger, Leonard Bernstein, Philippe Entremont, vous reconnaissez des musiciens français et américains. Des musiciens qui ont pu se rencontrer, se côtoyer, s'enrichir mutuellement, apprendre et enseigner grâce au conservatoire américain de Fontainebleau. Fondé peu après la Première Guerre mondiale, cette institution pédagogique originale fête cette année son centenaire. À cette occasion paraît un livre, naturellement bilingue, relatant un siècle d'excellence musicale que vient nous présenter Diana Ligeti, mon invitée. Les écoles d'art américaines de Fontainebleau, 1921-2021, avec Diana Ligeti. Robert et Gabi Casadesus interprétaient La berceuse, extraite de Dolly, de Gabriel Fauré. Bonjour Diana Ligeti.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la directrice donc, du conservatoire américain. Vous enseignez par ailleurs au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il faut expliquer tout d'abord le titre du livre, Les écoles d'art américaines de Fontainebleau. Alors, quelles sont ces écoles? Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit de la création donc d'une structure en 1921 par des personnalités très très fortes qui, à la sortie de la Première Guerre mondiale, se sont dit, premièrement, que la tradition musicale française était extrêmement forte, l'enseignement de la musique à la française attirait des gens du monde entier, et d'autre part, que l'art peut rapprocher, l'art peut être un instrument de paix et de collaboration. Et voilà, donc la famille Casadesus, d'abord Francis, ensuite ouais. Robert, Gabi, aujourd'hui Thérèse, qui est la présidente de la Fondation Côté Américain, Maurice Ravel, Nadia Boulanger, Camille Saint-Saëns, donc des très très grandes personnalités de la musique en France, Walter Damrosch, chef d'orchestre américain, et le général Pershing, ont trouvé au château de Fontainebleau l'endroit idéal pour créer cette structure. Alors elle s'appelle École, parce que d'abord l'idée d'enseigner la musique, et d'enseigner la musique pas uniquement en termes de vraiment tradition musicale et de savoir-faire musical, mais en tant qu'art, et en tant qu'art avec tous les éclairages que peuvent apporter les autres arts. Donc, en 1921, cette volonté de rapprocher à travers la tradition et aussi de s'attacher à la création, donc de favoriser les compositeurs et compositrices, et bien sûr ces personnalités très très fortes qui se sont mis au service de cette idée. Le château de Fontainebleau, donc cet écrin que nous avons depuis 100 ans, et puis école, parce que donc bien sûr l'enseignement de la musique, mais aussi l'enseignement des beaux-arts. La section beaux-arts a été ouverte 2 ans après le conservatoire américain en 1923. Et depuis toujours, il y a eu donc des passerelles entre les différents étudiants, les différents professeurs. Et encore aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Ce concept de convergence des arts est bien sûr toujours présent depuis très longtemps dans la tradition française. Et on le voit au château de Fontainebleau, où des artistes des horizons très très différents sont venus construire ce qu'il est aujourd'hui.
Et alors, comment se passait, et est-ce que ça a évolué, le recrutement tout d'abord des élèves? D'où venaient-ils? C'était des élèves américains qui venaient étudier en France à la base?
Alors, au tout début, oui, c'était des élèves américains qui, d'horizons finalement très très divers, qui venaient étudier en France, d'abord par bateau et ensuite par avion spécial d'Air France. On a des photos qui montrent un avion affrété pour que nos étudiants puissent arriver. Et ensuite, très très vite, le recrutement est devenu international. On a eu, par exemple, Astor Piazzolla. Beaucoup de gens, effectivement, d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens d'Asie. Finalement, on a du monde de 5 continents, peut-être un tout petit peu moins l'Afrique, mais on est en train de l'ouvrir aujourd'hui, et notamment par les écoles d'architecture. Donc, on a un recrutement qui est vraiment international. Et surtout aujourd'hui, bon, c'est facile avec Internet. Nous avons des étudiants qui déposent leur dossier et qu'on étudie en France et qu'on sélectionne après. Et au début, nous avions beaucoup d'étudiants. La session durait tout l'été, juin, juillet, août.
Donc c'est ça, il faut bien préciser qu'en fait, l'enseignement a lieu pendant l'été.
Voilà, en fait, l'idée, c'était de remplir le quarter des universités américaines où les universités étaient en vacances avec une session donc à Fontainebleau. Aujourd'hui, nous avons restreint au mois de juillet et nous avons aussi restreint le nombre d'étudiants. Nous sommes à une cinquantaine aujourd'hui, alors qu'il y avait des années entre 100 et 300.
Et Diana Ligeti, au départ, d'où venaient les professeurs, donc à partir de la fondation donc en 1921 de ce conservatoire américain? Est-ce qu'ils étaient tous enseignants au conservatoire de Paris, ou quel était le profil de ces professeurs?
Effectivement, les liens entre le conservatoire de Paris et l'école normale et les écoles d'art américaines étaient très fortes, et d'ailleurs ils le restent aujourd'hui. Beaucoup de nos professeurs enseignent aussi au conservatoire national supérieur de musique de Paris aujourd'hui, ou à l'école normale, et ils sont tous aussi des artistes internationaux. Nous avons aussi quelques artistes invités qui sont pas issus de ce corps de professeurs comme Gary Hoffman par exemple, mais qui est un artiste franco-américain extrêmement actif et connu. Mais les liens principaux sont ceux de l'enseignement à la française qui était prodigué au conservatoire avec les prix, avec tout ce qui faisait vraiment la spécificité du conservatoire.
Thank you. Philippe Entremont, piano, l'orchestre philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. C'était un extrait de la deuxième symphonie de Leonard Bernstein. Diana Ligeti, alors Philippe Entremont, piano, qui a dirigé pendant une vingtaine d'années, donc le conservatoire américain. Leonard Bernstein qui est venu à Fontainebleau également. Donc là, on a vraiment une belle illustration de ce rapprochement transatlantique entre la France et les États-Unis. Quels sont les musiciens américains qui sont venus à Fontainebleau et qui, depuis, se sont fait un nom, sont devenus célèbres? J'en ai cité quelques-uns en introduction, mais quels sont les peut-être les plus marquants?
Alors, nous, à l'occasion de notre centenaire, nous avons essayé de lister les étudiants qui sont passés par Fontainebleau. On en arrive à une dizaine de milliers.
Oui.
Parmi eux, Aaron Copland. Oui. En 1921, il faisait partie de la première promotion.
Oui.
Et je cite comme ça, pêle-mêle, Philip Glass, Quincy Jones, Virgil Thompson, Elliot Carter, Samuel Barber. Voilà, les très très grands représentants, oui. Les grands compositeurs américains sont tous passés par Fontainebleau. Il y a eu bien sûr aussi Michel Legrand, par exemple, Astor Piazzolla. La liste est très longue et j'en cite finalement pas assez.
Mais pas 10 000, oui.
Voilà. Et nous avons prévu de fêter une grande partie cet été, avec bien sûr le rappel de leurs œuvres. Et finalement, peut-être que la pandémie, on a décidé un petit peu autrement, mais on ne se laissera pas abattre et on les fêtera quand même.
On en reparlera tout à l'heure, Diana Ligeti. Alors justement, la liste des compositeurs que vous venez de citer, on imagine qu'ils ont tous été élèves de Nadia Boulanger, un personnage vraiment essentiel pour le conservatoire américain de Fontainebleau.
Exactement. Nadia Boulanger, évidemment, c'est une image extrêmement emblématique des écoles d'art américaines. Elle était là au début, en 1921. Elle est devenue la directrice juste après la guerre. Elle a fait tout pour que les écoles continuent, même pendant la guerre, à l'aide de la famille Kasatsu aux États-Unis. Et donc, elle est restée la directrice des écoles d'art américaines jusqu'à son décès. Et elle était l'aimant qui attirait à Fontainebleau la totalité des musiciens du monde entier. Et tous ont trouvé en elle une oreille évidemment extrêmement attentive, une intelligence acérée qui réussissait malgré ses talents finalement quelquefois balbutiants, de reconnaître le talent et le chemin que chacun devrait prendre.
Et c'est quelqu'un qui n'imposait pas, elle disait pas il faut aller dans telle direction, non.
Elle donnait les outils.
C'est
elle
ça.
Disait voilà ce que vous devez savoir en tant que compositeur, voilà le métier de compositeur, et ensuite votre travail et votre ingéniosité, votre talent vous mènera là où il faut. Elle a quand même dit à Piazzolla, et j'aime beaucoup cette anecdote, que peut-être qu'il ne sera jamais Schoenberg, mais qu'il pourra devenir Piazzolla.
C'est, apparemment, je crois qu'il a réussi. Si on fait référence au nom que vous avez cité tout à l'heure, Diana Ligeti, c'est vrai qu'entre Copland, Elliot Carter, Philip Glass, on voit des parcours artistiques et musicaux totalement différents. Donc on comprend très bien qu'il n'y avait pas un moule Nadia Boulanger, mais effectivement des outils, comme vous venez de le dire, pour permettre à chacun de faire sa propre route.
Il y avait effectivement, elle donnait tous les outils, elle avait sa classe d'harmonisation, sa classe de contrepoint, sa classe d'analyse. Il y avait du solfège à Fontainebleau par Annette Dieudonné. Il y avait tous ces éléments très techniques qu'on enseignait en France, qu'on n'enseignait pas ailleurs. La lecture à vue, par exemple, on a cette tradition depuis le début du conservatoire qui est quelque chose de très, vraiment très typique de l'enseignement musical à la française. Et il y avait surtout des rencontres. Le Fontainebleau était un creuset de rencontres créatrices. Quand vous avez un professeur de composition comme Henri Dutilleux, par exemple, ou Betsy Jolas, Messiaen, bien sûr, Olivier Messiaen, ça donne des idées, c'est extrêmement stimulant. Parmi les architectes, il y a eu des très très grands architectes aussi du XXe siècle, donc ces rencontres sont vraiment toujours fondatrices finalement pour un jeune artiste en devenir. Et tous le soulignent quand ils parlent de leur séjour à Fontainebleau.
Sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez,
Edwin Crossley-Mercer, baryton, accompagné au piano par Lucie Moreau. C'était un grand sommeil noir de Nadia Boulanger sur un poème de Verlaine. Diana Ligeti, vous êtes ici pour présenter donc ce livre consacré aux 100 ans des écoles d'art américaines. Donc c'est un très beau livre, richement illustré, que vient d'éditer donc Gourcuff Gradenigo. Comment est-ce que vous avez choisi les différents... C'est un ouvrage collectif, hein, coordonné par, entre autres, Catherine Massip, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers l'histoire de cette institution musicale, à travers l'histoire de, de ces écoles d'art américaines?
Bah déjà, justement, la richesse de cette histoire, ouais. Les très, très grands domaines dans lesquels nous avons œuvré. Il y a Alexis Galperine qui, en introduction de ce livre, présente le contexte historique.
Il y a plusieurs entretiens aussi avec différents
artistes.
Il y a plusieurs entretiens avec différents artistes, avec
les anciens directeurs. Catherine Massip qui fait vraiment la synthèse des professeurs, de compositeurs, des élèves, des étudiants, des écoles d'art et des différentes directions que ont pris justement l'enseignement de la musique et de l'architecture depuis 100 ans. Annie Jacques qui est vraiment plutôt du côté de l'architecture et donc qui présente ses aussi très grandes personnalités de l'architecture qui ont façonné l'enseignement de Fontainebleau. Et puis toutes les passerelles que nous avons faites à travers ce siècle, à travers les décennies, il y a une iconographie très riche.
Très soignée, très belles photos, notamment en noir et blanc, où on voit Ravel, où on en voit plein de compositeurs comme ça. Des photos collectives vraiment très, très belles. Ouais.
Voilà, pour illustrer aussi donc, toutes les personnalités qui sont venues à Fontainebleau. Il y a aussi des entretiens avec des anciens élèves donc qui sont aujourd'hui encore en activité et ce livre ne se veut pas uniquement comme un livre d'histoire mais aussi un livre qui ouvre sur l'avenir. Je suis très attachée à cette idée que nous transmettons une tradition, mais c'est pas pour cela que nous sommes passéistes et que nous avons ce credo que voilà, la création est toujours présente, nous encourageons toujours la création, la diversité, l'intégration du patrimoine. Nous nous sommes aperçus que finalement des étudiants américains ou venant d'horizons très très différents n'avaient pas du tout la même vision de l'histoire du patrimoine. Château de Fontainebleau a 800 ans. Tous n'ont pas l'habitude d'avoir des cours dans des si belles salles de classe comme la chapelle de la Trinité ou la salle des colonnes du château de Fontainebleau. Et donc tout cela, nous avons essayé à la fois de le montrer dans le livre, nous essayons de continuer cela. C'est pour ça que venir à Fontainebleau n'est pas la même chose qu'avoir un cours par Zoom. Et tous les étudiants, tous les élèves, tous les artistes qui viennent à Fontainebleau nous disent cela, c'est que Fontainebleau a un esprit vraiment qu'il faut cultiver, qu'il faut continuer à transmettre, tout en étant moderne, tout en étant à la pointe de l'innovation, à la fois en termes d'enseignement. On n'enseigne plus aujourd'hui la musique comme en 1921, ni l'architecture d'ailleurs. Et donc, voilà, nous essayons de montrer cela dans le livre. J'espère que dans 100 ans, on pourra en faire un autre et de dire voilà ce qu'on a fait pendant encore 100 ans.
nuit porte ses maîtres noirs. En capuchon serré, les sapins sautent vers le noir.
Yumi Inara Soprano, accompagnée au piano par Jay Gottlieb, c'était Montagne, extrait de Harawi d'Olivier Messiaen. Olivier Messiaen que vous citiez précédemment, Diana Ligeti. On sait que chaque année à Fontainebleau, il y a un festival. Alors, quelle en est la nature? Comment est-ce que, quel en est l'objet? Puis cette année, en 2021, vu les circonstances, comment est-ce qu'il est conçu, prévu, organisé, chamboulé? Dites-moi.
Alors, malgré le terme d'école d'art américaine, il me semble que faire aussi des concerts dans les bels écrins du château de Fontainebleau faisait toujours partie des écoles d'art américaines. Donc, en fait, c'était un festival dès 1921. Évidemment, aujourd'hui, la notion de festival, elle est extrêmement large. On y fait des cours, on fait des concerts, on fait des conférences, on fait des masterclass, on fait des visites guidées sur le thème de la musique au château de Fontainebleau. Donc, nous continuons donc cette tradition des concerts, des artistes invités, des artistes internationaux qui viennent faire une masterclass, des professeurs qui restent un peu plus longtemps et qui participent aussi à des concerts, les étudiants qui montrent ce qu'ils apprennent aussi, leur talent. Nous avons vraiment une palette extrêmement large d'activités dans ce qu'aujourd'hui on appelle le Festival des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Et évidemment, pour cet été, nous avions prévu beaucoup de choses. Et nous sommes en train de tout repenser. En tout cas, nous allons avoir des activités en ligne et notamment justement la présentation des différentes activités, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avec les architectes, comment les musiciens et les architectes créent ensemble, quelques conférences un peu plus historiques sur justement notre centenaire, l'enseignement qu'on y a fait depuis 100 ans. Et beaucoup de choses un peu plus interactives. Nous allons bien sûr avoir des concerts et j'espère que tous ceux qui étaient prévus pourront venir, notamment Jay Gottlieb, bien sûr, Emil Naumov, qui était aussi un des présences les plus longues à Fontainebleau, Robert Levin, qui est arrivé à Fontainebleau en 1962 et qui y est toujours. Et donc toutes ces personnalités, j'espère qu'ils seront là pour fêter malgré tout, même si on est obligé de faire des concerts à l'extérieur, on le fera. Nous avons prévu de fêter le centenaire d'Astor Piazzolla avec Marta Argerich et son quintette Reencuentros, qui font donc revisiter un peu le tango, mais aussi bien sûr rendre hommage à Piazzolla. Nous avons donc prévu, j'espère qu'on pourra l'organiser, je ferai tout pour le 5 juillet. Et nous avons planifié aussi un concert avec l'Orchestre d'Île-de-France, avec le concerto de Ravel, joué par le concerto en sol de Maurice Ravel, joué par Philippe Bianconi, mon prédécesseur. Donc, ça, le 9 juillet. Et l'idée, c'était de faire 10 concerts pour un centenaire, un par décade, avec les éléments marquants ou les compositeurs marquants qui sont venus à Fontainebleau. Et en 21, par exemple, le discours d'inauguration a été fait par Camille Saint-Saëns, qui est décédée juste après. Donc, je voulais lui rendre hommage aussi, entre autres, avec son quatuor avec piano, en si bémol majeur. Et voilà, donc en fait, l'idée était de revisiter 100 ans de, finalement, festival, avec des programmes, avec Stravinsky, bien sûr, avec Messiaen, avec Philippe Glass, et avec de la création contemporaine.
Très bien, merci beaucoup Diana Ligeti. Je rappelle le livre qui vient de paraître chez Gourcuff Gradenigo, Les écoles d'art américaines de Fontainebleau, 1921-2021. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Dofar Guéride, attaché de production Annick Aumier. Je donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.